Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 mai 2025. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission quotidienne d'actualité locale et associative. Vous pouvez nous retrouver sur le site radiocampusamiens.fr, sur le 87 FM et aussi en DAB+. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thomas à la technique. Bonjour Thomas.
Bonjour.
De Sonia pour les actualités du jour. Bonjour Sonia, de quoi vas-tu nous parler ?
Bonjour Océane, je vais parler d'un atelier d'écriture, d'une visite guidée et d'un festival.
D'accord, super, on va écouter ça tout à l'heure. Aujourd'hui, on vous propose une émission un peu particulière. À l'occasion du 8 mai, on vous emmène à découvrir le cimetière de la Madeleine avec la guide Carole Van Londersel. Cette ancienne professeure agrégée d'histoire a accepté de nous faire visiter ce lieu chargé d'histoire et symbole de la ville d'Amiens. Partons donc à la rencontre d'Auguste, Jules, des Ursulines ou encore de Frédéric. Bonne écoute.
Alors, toute visite de la Madeleine commence par ici, même si... les auditeurs ne le voient pas, mais le plan n'est pas en très bonne forme. Il y a trois choses ici à la Madeleine. D'abord, c'est un des 8 cimetières d'Amiens. Ce n'est pas le seul. C'est évidemment le plus imposant, le plus célèbre, d'une certaine manière le plus beau. Enfin, derrière, il y a quand même Saint-Acheul hein, qui fait 11 hectares. Et ici, ça fait 18 hectares. Et alors, pourquoi ce cimetière de la Madeleine est tout à fait intéressant ? Pour trois choses. D'abord parce que quand on regarde le plan, on voit que toutes les allées sont sinueuses, parce que c'est un parc à l'anglaise. Ce cimetière date du tout début du 19e siècle et la mode n'est plus au jardin rectiligne, etc. Et c'est donc un jardin où finalement, quand on commence à prendre une courbe, on ne voit pas l'allée suivante. L'allée suivante sera elle-même incurvée, etc. Et on découvrira des atmosphères différentes. Il y a des parties forestières, il y a des parties en bosquet, il y a des parties engazonnées, etc. etc. Et ce cimetière de la Madeleine, ce qu'il a aussi d'extraordinaire, c'est que c'est évidemment une forme de musée en plein air. C'est-à-dire que vous avez évidemment des tombes spectaculaires, vous avez des choses vraiment extraordinaires. Pas seulement la tombe de Jules Verne dont on parle toujours, mais il y a même des anonymes avec des tombes évidemment extrêmement étonnantes. Ça, c'est une deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est que vous voyez toute la sociologie du 19e siècle. Alors, vous voyez les riches, évidemment. Ils sont en bordure d'allée, ils sont dans des concessions à perpétuité. Les plus pauvres sont au milieu des îlots, évidemment. Et donc, il y a des choses quand même très intéressantes, puisque le 19e siècle, qu'est-ce que c'est Amiens ? Les grands marchands de tissus, évidemment, les grands ingénieurs, etc. Et puis aussi, son nom, peut-être éclaircir un peu son nom. La Madeleine, ça vient de la Marie-Madeleine. Parce que la Madeleine, c'est la sainte qui protège les malades. On la représente toujours avec un pont à onguent pour soigner les plaies du Christ. Et en réalité, ici, nous savons que cet endroit est connu depuis le XIIe siècle. Depuis le XIIe siècle, c'est une maladrerie donc qui accueille les malades. Et pas n'importe quel malade, ce qu'on ne veut pas dans le centre-ville, dans la ville. Les lépreux. Les pestiférés, parce qu'évidemment, on n'est pas dans Amiens à cette époque-là. Hein. On est évidemment bien hors les murs. La première porte, elle se trouve du côté du Jardin des Plantes. Vous voyez, on a déjà fait du chemin par rapport au Jardin des Plantes. On a traversé tout le quartier Saint-Maurice. D'ailleurs, ici, c'était le village de Saint-Maurice. Et pourquoi est-ce qu'il y a un cimetière aussi extraordinaire ici, dans un endroit qui était en fait un lieu hospitalier ? Eh bien parce qu'à partir de Louis XIV et surtout de Louis XV, les arrêtés royaux interdisent les cimetières en ville. Or, les cimetières étaient en ville, ils étaient autour des paroisses. Alors bien sûr, nous, Amiens, on connaît la cathédrale, mais en réalité, vous aviez 12 autres paroisses et autour, vous aviez le cimetière attenant. Et donc, le principal cimetière d'Amiens, c'était la place René Goblet, sur la rue des Trois Cailloux. Sauf qu'il n'était pas rare de voir un chien sortir avec un os, enfin bon, etc. Bon, sur le plan, évidemment, de l'hygiène, etc., on commence fortement à s'y intéresser au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Et puis, il y a un conseiller municipal qui s'appelle M. Duval, qui sera le premier à se faire inhumer ici, qui dit au conseil municipal, mais écoutez, il y a une maladrerie qui est maintenant déserte. Elle sera désertée, en fait, après la dernière grande peste hein, qui aura lieu au XVIIe siècle. Vous avez là un grand espace. Pourquoi ne pas le transformer en cimetière principal de la ville ? Mais les gens, psychologiquement, ne sont pas prêts. D'abord parce que c'est loin. Ils n'ont pas leur vélo, ils n'ont pas leur... Voilà, c'est loin. Et puis ensuite, c'est une réputation, évidemment, d'avoir été une léproserie et un lieu clos pour les pestiférés, que l'on mettait bien loin pour ne surtout pas les approcher. Donc, les mentalités vont mettre un certain temps. Monsieur Duval va montrer l'exemple, puisqu'il meurt en 1811 et il demande l'autorisation d'être inhumé dans cet endroit. Et en fait, les choses vont quand même s'affermir. Et puis, on va voter, évidemment, le transport du cimetière de la place René-Goblet, qui s'appelait le cimetière Saint-Denis, à la Madeleine. Il est inauguré officiellement en 1817. Nous n'avons plus, si ce n'est une idée d'où il se trouve, la tombe de Monsieur Duval. Nous n'avons pas la deuxième tombe qui était un jeune capitaine mort jeune et que ses parents font inhumer ici, mais nous avons la troisième tombe, donc la plus ancienne, et qui est également, l'inhumation a lieu un an avant l'inauguration officielle, avec la bénédiction de l'évêque, etc., etc. Donc voilà, au départ, personne ne veut y venir. Et puis, il y a un évêque qui va se faire inhumer à la Madeleine. Et bientôt, alors que la Madeleine ne fait qu'au départ 8 hectares, eh bien, 10 ans plus tard, donc en 1827, il est trop petit. On va agrandir de ce côté et on va agrandir vers le nord. Qui se charge de ça pour faire des allées, pour en faire évidemment un lieu aussi de recueillement? Eh bien, c'est l'architecte de la ville et du département qui s'appelle Auguste Chezay. Alors, il ne reste pas beaucoup de choses de ce qu'il a fait parce que les deux guerres mondiales sont passées par Amiens. Mais la bibliothèque municipale, par exemple, en 1820, la bibliothèque municipale, c'est lui.
Nous devons être prudents.
Effectivement. Alors, on a beaucoup de choses à évoquer, souvent avec les gens. Ici, ça n'est plus possible, mais moi, il y a 15 ans, j'arrivais encore à lire ce qui était écrit sur ces tombes, qui sont des tombes d'anglicans et d'anglais. Et on voyait né à Londres, mort à Amiens, etc., etc. Parce que, évidemment, au XIXe siècle, à la suite des grandes familles du velours, les Cosseras, etc., il y a de l'espionnage industriel, il ne faut pas. Voilà. Et on demande à des ingénieurs anglais de venir avec leur savoir-faire. C'est l'histoire du quartier Saint-Acheul, Amiens, avec ces maisons qui sont comme le Dowding Street du Premier ministre britannique. Voilà. Donc, on a évidemment là des silhouettes, si vous voulez, de sépultures un peu différentes, bon, qui maintenant commencent à être totalement recouvertes par le lierre, mais qui sont la preuve qu'il y a eu toute une colonie anglaise qui a fait souche, évidemment, et qui souvent, d'ailleurs, s'est installée et n'est pas forcément repartie. Et puis aussi, moi, j'évoque quelque chose qui n'est pas visible ici, dans cette espèce de grande futaie, de grand taillis, c'est que la dernière fois que l'on va enterrer dans le cimetière Saint-Denis, c'est-à-dire place René-Goblet, où il y a toujours un square, parce qu'on n'a surtout pas voulu y mettre des bâtiments, on a respecté ceci, c'est Chezay lui-même aussi qui a redéfini ce square, qui l'a redessiné, qui a fait les immeubles autour, dont certains ont sauté pendant les guerres, mais certains immeubles restent encore en fait du début du 19e siècle. Donc la dernière inhumation, c'est 1795. Donc, on est encore dans la Révolution française. Et après, c'est interdit. Mais on va déterrer tous les ossements. Et nous dit Albéric de Calonne, qui est un des grands historiens de la ville du 19e, nous dit que 100 charrettes d'ossements on fait le trajet entre le centre-ville et ici. Et qu'on a mis dans un ossuaire géant tous ces Amiénois. Alors pour le coup, ces Amiénois qui étaient là-bas, c'était les Amiénois qui étaient depuis le haut Moyen-Âge. Là, vous aviez des gens qui étaient certainement inhumés depuis l'histoire des premières paroisses, depuis le 4e, 5e, 6e, 7e siècle, etc. Voilà. Bon. Alors, on aimerait qu'il y ait un petit panneau qui raconte cela, une petite signalétique, mais bon, on l'a déjà évidemment signalé. Alors
ah oui, et là ce sont des croix
Voilà, là vous apercevez 144 croix de bois qui vous font penser évidemment à un cimetière militaire. Parce que d'abord, c'est l'impression qui a été voulue. Mais en réalité, ce sont des civils qui ont été tués pendant les bombardements, en particulier de 44 ici à Amiens, de l'opération Jéricho. L'opération Jéricho est une... En 40, la ville est détruite par la Luftwaffe, par les bombardements allemands. Hein, la ville est extrêmement abîmée, hein, à 70%. Mais en 44, les Alliés, à partir du débarquement, en fait, font des opérations pour libérer dans la prison d'Amiens les résistants. Et il y a des victimes civiles. Alors, elles ne sont pas forcément là-dessous, n'est-ce pas ? Mais on a voulu leur rendre hommage comme victimes collatérales de la guerre, en imaginant évidemment ces simples croix, avec, vous voyez, le petit monument ici qui est là-bas, en granit, eh bien, c'est la stèle qui rappelle évidemment, bien sûr, cette histoire qui est assez émouvante. Et les croix, j'ai vu qu'il y en avait une ou deux qui étaient déjà recouchées. On les a restaurées, là, je crois, juste avant la Covid, hein, parce qu'elles étaient quasiment d'origine et on les a toutes refaites assez récemment.
Et vous direz, il y a combien de styles différents qui se démarquent ici à la Madeleine ?
Il y a tous les styles, du paléo-chrétien en passant par le pseudo-égyptien, regardez. Hein, voilà. Donc ça, c'est une tombe magnifique que j'ai mis avec mon amie Catherine dans le parcours que nous avons créé sur l'art déco. Parce que cette tombe, nous savons qu'elle est... Enfin, cette concession est achetée dans les années 1846. Mais dans les années 20, eh bien, la famille va supprimer le monument qui y était, si vous voulez, va reprendre la concession, et puis va faire créer cette tombe qui est évidemment magnifique, d'abord parce que nous savons qu'elle est du père et du fils Ansart, Pierre et Gérard Ansart, qui sont petits-fils et petits-neveux, en fait, fameux frères Dutoit qui ont travaillé avec Viollet-le-Duc et qui sont évidemment des ornemanistes très très célèbres pour nous et très précieux, les frères Dutoit, puisqu'ils ont absolument peint, croqué toutes les fontaines, toutes les façades, tous les entrées de cimetières. Par exemple, le cimetière Saint-Denis, on le connaît parce qu'on a des croquis des frères Dutoit. Comme tout ça est ravagé par les deux guerres mondiales, on est drôlement content, hein, d'avoir les croquis des frères Dutoit. Et là, c'est 1922. Eh ben, c'est l'année où on découvre le tombeau de Toutankhamon. Hein, je ne dis pas la folie des années 20, la folie orientale aussi, les années folles. Hein, tout cela montre évidemment ce décor tout à fait extraordinaire, totalement géométrisé, totalement stylisé, vous voyez, y compris sur les dalles, qui sont formés de quatre dalles avec la jardinière qui est en croix, en crucifix. Et puis, regardez, la mosaïque est d'une magnifique qualité puisqu'elle est toujours là, bien qu'elle ne soit pas abritée. Et puis, vous avez ces drôles de colonnes qui sont trapézoïdales, puis rondes, puis des chapiteaux qui sont à nouveau en forme de cube avec des motifs extrêmement stylisés. Et en particulier, vous voyez la rose de Irib. Irib est un styliste, un designer, qui a inventé des robes et des dessins pour Paul Poiret, si ça vous dit peut-être quelque chose, et qui devait épouser d'ailleurs Mademoiselle Chanel, et qui meurt prématurément, ce designer. Mais tout ça, c'est les années 20, c'est les années 30, entre les deux guerres mondiales, où on ne sait pas qu'il va y avoir une deuxième guerre, donc bon, évidemment... Hein. Hein, bien sûr, c'est l'effervescence. Et puis le chrisme là, des Ansarts, qui est tout à fait particulier. Hein, la forme, vous voyez, des lettres n'est pas innocente. Toute cette calligraphie, tout ce style. Et puis quand même, vous avez l'utilisation ici de marbre rose. Hein, ce que vous voyez évidemment coloré. Tout ça, c'est du marbre rose. Donc vous avez des matériaux d'une très, très grande qualité. Tellement grande qualité que nous avons souvent des pillards de cimetières. Et que là, vous aviez effectivement, là, en bronze, vous voyez, voilà, ils n'ont pas eu le temps de découper cela, mais il y a eu effectivement une effraction. Il y a eu 30 tombes, dont évidemment beaucoup classées, qui ont fait l'objet d'un pillage, où très vite ils ont retiré les chaînes, ils ont retiré tout ce qu'ils pouvaient avoir comme bronze et comme cuivre.
On a beaucoup, beaucoup d'hommes illustres quand même. Est-ce qu'il y a des femmes illustre dans
ce... Oui, il y a Victorine Autier, il y a quand même des gens illustres. Et puis il y a aussi, c'est plutôt de l'autre côté, des enclos des grands couvents amiénois. Par exemple, en ce moment, au musée de Picardie, on a une très belle exposition sur la broderie des Ursulines. Eh bien, vous avez effectivement l'enclos des Ursulines, l'enclos des Carmélites, etc., etc. Donc il y a toute une histoire aussi. Très importante. Alors là, deux choses. D'abord, un homme célèbre qui a été ministre, qui a été sénateur de la Somme et qui a été ministre. Donc, c'est Jules Barni. C'est une des rues principales, évidemment, d'Amiens. Jules Barni est un libre penseur. Il résiste, évidemment, à l'Empire, à Napoléon III, etc. Il part en exil. Il va effectivement revenir... et adhérer bien sûr à la Troisième République, mais surtout c'est un journaliste, c'est un philosophe, et on le sait pas, mais c'est lui qui traduit Kant pour la première fois en France. Donc c'est vraiment je dirais un intellectuel. Du coup, la femme que vous voyez ici, qui est absolument superbe et qui est d'un très grand architecte amiénois, Athanase Fossé, vous voyez son nom d'ailleurs sous le pied du personnage, c'est lui qui a fait en partie les statues qui sont devant le palais de justice, par exemple, etc. Enfin, on le retrouve dans la ville. Donc vous avez ici, non pas une pleureuse, mais quelqu'un qui représente en fait la philosophie, les lettres, la littérature. Et vous n'avez pas de signe extérieur, je dirais, de religion. Vous avez quelque chose qui est très symbolique ici, en matière funéraire, qui est le pavot. L'opium donne le sommeil, évidemment, mais en même temps, on se réveille. On dirait aujourd'hui, bien sûr, que on est shooté, on a un trip, mais on se réveille. Donc, souvent, les fleurs de pavot sont utilisées comme symboliques aussi de cette mort, qui n'est peut-être pas forcément une véritable mort. Et puis là, on a évidemment un enclos magnifique. Donc, c'est la tombe de Frédéric Petit. Alors, Frédéric Petit, c'est... ce qu'on appelle un radical socialiste. Le socialisme n'existe pas encore, mais il entraîne dans son sillage quelqu'un qui n'est pas du tout de son bord politique, qui est Jules Verne, puisque Jules Verne sera pendant 16 ans conseiller municipal, alors que Jules Verne, disons-le, c'est un conservateur, c'est un rentier, c'est quelqu'un plutôt, dirons-nous, de droite. Mais Frédéric Petit a tellement 30 idées à la seconde que ça convient très très bien à Jules Verne, en définitive, et que c'est avec lui qu'il porte le fameux projet du cirque. Malgré toutes les critiques qu'il y aura, etc., il tiendra bon. Et vous aurez évidemment, ce cirque que disait Jules Verne au moment de l'inauguration, on nous enviera tant. Et ce n'est pas faux, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus que 6 en France de cirque en dur. Maintenant, la mode est revenue au chapiteau de toile, évidemment. Mais à nouveau, on revient au cirque en dur, puisque Bartabas est dans les écuries de Versailles, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes compagnies recherchent des résidences permanentes, plutôt que d'avoir, évidemment, des pavillons, en toile. Et donc là, si vous regardez à droite, si vous regardez à gauche, vous avez cette très belle enfilade, justement, de chapelles néo-gothiques. Et là aussi, vous allez pouvoir voir parfois... que tous les styles sont là, parce que si vous regardez celle-ci, cette première chapelle, elle est totalement Viollet-le-Duc, voilà, bon, elle est néo-gothique, mais plus loin, vous en avez une dont la coupole est byzantine, et il y en a une un petit peu plus loin qui est complètement byzantine également. Donc voilà, chaque, personne qui prépare sa tombe, parce que souvent, et c'est encore le cas au XIXe siècle, on prépare à l'avance, et on veut montrer sa réussite sociale au travers, évidemment, de ces tombes qui sont absolument extraordinaires. Et justement, là, on va juste faire quelques pas. On voit bien l'étoile du berger. Et en fait, c'est la chapelle qui est consacrée à la famille du médecin-chef de l'Hospice Dieu. Et l'Hospice Dieu, c'est en fait rue Saint-Leu, les fameuses ruines que vous avez. Eh bien, sachez que, en fait, elles ne sont des ruines que depuis 1940. C'est-à-dire que cet hospice des malades, en fait, a fonctionné jusqu'à l'époque contemporaine. Il en était le médecin-chef. Et vous voyez donc sur l'écu qui est sous l'étoile du berger, vous voyez évidemment le fait qu'il était donc médecin avec le bâton d'Esculape. Hein. Et puis vous pouvez avoir des choses très très originales, comme cette tombe de Luc de Bar, qui était président de la Société des Antiquaires de Picardie, et qui a choisi, vous voyez, quelque chose de très brut, hein, vous voyez, un rocher comme un Golgotha, avec une pierre à peine travaillée, et puis, vous voyez, son nom est marqué en mots croisés dans le crucifix. Et puis derrière, vous avez toutes ces parutions, puisque c'est un chercheur, hein, c'est un grammairien, lexicologue, etc., toutes les parutions qu'il a faites. Donc on peut absolument trouver tout ce que l'on veut. Et puis vous voyez, de chaque côté des allées, si j'ose dire, vous n'avez pas forcément des tombes. Vous avez la volonté de mettre des bosquets. C'est très important. Et en même temps, ça fait partie, je dirais, de la philosophie. On ne peut pas se balader dans la Madeleine sans penser à la personne qu'on vient de perdre ou qu'on a perdue. Ou peut-être qu'on perdra, et puis même nous-mêmes. Donc, je veux dire, forcément, la philosophie, elle est là. Mais elle n'est jamais morbide.
Elle est plutôt mélancolique.
Elle est plutôt mélancolique, et puis il y a les oiseaux qui nous accompagnent, et puis l'endroit est joli. On se dit, bah, pourquoi je ne serais pas là, finalement, parce que c'est très beau, etc. Hein, peut-être. Alors ça, c'est une tombe, évidemment, qui fait déplacer des bus, puisque quand nous avons souvent des cars de touristes, nous les arrêtons devant la Madeleine, et simplement, ils font juste l'allée principale pour monter, évidemment, jusqu'à la tombe de Jules Verne, qui est vraiment une œuvre remarquable, vers l'éternité et l'éternelle jeunesse. Hein, c'est son ami Albert Rose, directeur des Beaux-Arts, directeur du musée de Picardie, qui fait cette œuvre. Et puis, vous avez aussi d'autres choses plus intéressantes. Alors, bien sûr, c'est l'occasion de raconter, hein, bien sûr, l'histoire de Jules. D'autant plus que là, on vient de le découvrir, puisque vous savez peut-être qu'il a été restauré. Ce monument en marbre a été restauré, ainsi que, évidemment, ce granit rosé, vous voyez, qui est superbe, là, qui prend le soleil juste là, au moment où on arrive. Mais vous voyez tous ces arbres, ça va vous rappeler quelque chose. C'était des ifs qui étaient taillés en forme, évidemment, je dirais, comme une pergola, en fait, hein, comme une treille. Mais ça cause des dégâts, évidemment, considérables. Parce qu'à partir du moment où la pierre s'effrite un peu, s'érode, etc., vous avez des toutes petites particules qui rentrent, et des petits champignons, etc., etc. Et on a vu cette tombe, évidemment, très très noire, hein, très foncée. Donc là, ce sont deux restauratrices, hein, qui ont fait le travail. Du coup, vous le savez sans doute, mais tout ça est bâché, évidemment, l'hiver. Il y a des tombes magnifiques, mais c'est l'objet d'une autre visite. Quand vous montez, et sur la droite, au-dessus de ce petit monticule, vous allez dans la partie occidentale du cimetière, dans la partie ouest, vous allez vers l'aval du fleuve, vous avez la tombe des Dutoit, qui elle-même est un raccourci entre l'époque classique, l'époque néo-gothique, l'art déco, et vous avez les quatre générations des Dutoit, qui montre évidemment un style particulier. Et puis là, vous voyez, vous avez un monument un peu imposant, hein, qui forme, vous voyez, comme une mini-chapelle, une espèce de campanile, en fait, surmontée d'un grand crucifix. C'est quelque chose qui a été donné par la mairie, puisque nous sommes toujours en terrain municipal, à l'évêché. Et c'est le monument du chapitre cathédral. Si on s'y approche et qu'on se penche, hein, puisque vous avez comme une petite courette, si vous voulez, vous avez des noms de curés, de chanoines de la cathédrale, depuis avant la Révolution française. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qui ont connu la Révolution française et qui sont là, en fait, très vite au moment de la création du cimetière. Il ne faut pas hésiter, hein, à s'aventurer, hein, je ne le ferai pas avec vous aujourd'hui, mais le guide n'est fait que pour vous donner envie de revenir. Nous ne sommes qu'un prétexte. Et vous avez une tombe. Alors là, en plus, on est absolument à la bonne heure. Extraordinaire. Nous sommes dans la partie la plus ancienne. Nous sommes dans la plaine F du cimetière de la Madeleine. Vous êtes dans la plaine la plus ancienne. Nous savons que cette tombe, cette concession est vendue dès les années 1827, etc. Mais qu'en fait, ce que vous avez devant vous date de 1900. Et qu'il y a un mélange ici absolument composite de ce que les gens veulent, c'est-à-dire à la fois un peu d'art nouveau et un peu d'art déco. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a de la géométrisation, et puis quand vous regardez les fleurs, elles ont beaucoup de déliés aussi, comme le style nouille, évidemment, de l'art nouveau d'avant-guerre. Et puis, au milieu, bien sûr, cette mosaïque parfaitement bien conservée, extraordinaire, hein, depuis 1900. Et puis, cette sculpture en marbre, dont on ne connaît pas le sculpteur, parce que souvent, il faut aller défricher, on a les noms sur les côtés. Hein. Les sculpteurs, comme l'architecte, comme le marbrier, évidemment, laissent leur signature. Alors, vous voyez que c'est un cimetière extraordinaire. À vous de faire les autres allées.
Merci beaucoup.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, vous venez d'écouter Back to My Roots de Nagai. Pour clôturer l'émission, Sonia, on t'écoute avec l'actualité du jour.
Alors, on commence avec un atelier d'initiation à l'écriture pour adultes, organisé par le musée de Picardie ce vendredi 9 mai 2025, de 17h à 19h. Si ça vous intéresse, les inscriptions sont obligatoires. Les tarifs vont de 5€ à 9€, mais attention, les places sont limitées. À l'occasion de la Journée mondiale des espèces menacées, le CIAP, Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, organise une visite guidée de leurs locaux ce dimanche 11 mai 2025 à 11h. Si vous êtes intéressé, c'est gratuit, ouvert à tous et rendez-vous au 23 Place Notre-Dame à Amiens. Pour finir sur une ambiance festive, le Festival des identités autour des identités urbaines commence mardi 13 mai 2025 à Amiens, à la place Gambetta, et se termine le samedi 17 mai 2025. Au programme, des expositions, des concerts, des ateliers ou encore des concours, c'est gratuit et ouvert à tous.
Merci Sonia pour les actualités. Et voilà, c'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. Merci à Thomas pour la technique. On se quitte en musique avec Victoria de Brutus. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens.